suivre est une rediffusion.
Religion du monde. Geneviève Delrue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour cette première rediffusion de l'été, nous avons choisi l'émission du 8 novembre 2020 consacrée au 50e anniversaire de la mort du général de Gaulle. Avec nos invités, deux historiens, Jean-Paul Bled et Gaël Nofri, nous avions regardé l'action du général de Gaulle à la lumière du christianisme dans lequel il a grandi. Respectueux de la laïcité française, on l'a rarement vu communier, très discret sur sa foi, quand le général de Gaulle évoquait la transcendance, c'était pour l'associer au destin de la France. Le général était-il à la fois chrétien et homme d'État, comme le définissait sa nièce, Geneviève Antonioz de Gaulle, ou bien homme d'État tout court, habité par la dimension mystique qu'il donnait à la France? C'est à cette question qu'ont répondu Jean-Paul Bled et Gaël Nofri. Jean-Paul Bled, qui a dirigé l'ouvrage collectif « De Gaulle, l'homme du siècle », publié aux éditions du Cerf, un vrai dictionnaire sur De Gaulle.
Ce livre se veut modestement une somme, et pour cela, nous avons rassemblé un grand nombre de contributeurs, et je dirais parmi les meilleurs.
Alors, je rappelle que vous êtes historien, vous avez été professeur à la Sorbonne, vous êtes spécialiste de l'Allemagne et de l'Europe centrale. Parmi les nombreux livres que vous avez publiés, je citerai Marie-Thérèse d'Autriche et Frédéric II de Prusse. Et vous êtes également membre du conseil scientifique de la Fondation de Gaulle, ce qui explique la direction de cet ouvrage collectif. Gaël Nofri, vous êtes historien, vous êtes également adjoint au maire de Nice, ça c'est le versant politique. Vous avez signé Une histoire des révolutions en France et Napoléon III. Et dans ce grand dictionnaire, hein, De Gaulle, l'homme du siècle, aux éditions du Cerf, vous signez la partie, on va pas dire la partie religieuse ni mystique, mais enfin, en tous les cas, la pensée chrétienne de De Gaulle. Pourquoi vous intéressez-vous à ce versant du général ?
Parce que je pense qu'au-delà même de son éducation, auquel vous faisiez référence, au-delà du milieu dans lequel il a baigné, je pense que cette dimension est intrinsèquement liée à l'ensemble de l'identité du général de Gaulle et à travers l'identité de ce qui va le déterminer dans sa compréhension des enjeux politique, mais aussi et surtout humain, et dans sa définition même de la liberté qu'il mettra en œuvre, que ce soit dans la résistance ou ensuite dans son passage à la présidence de la République et dans la direction qu'il va donner à la France.
Pour vous, impossible de comprendre l'action du général si on ne prend pas en compte le substrat chrétien.
Évidemment, je pense qu'il n'est pas possible de comprendre le général de Gaulle si on ne conçoit pas à la fois, effectivement, la dimension religieuse, mais aussi sa façon particulière d'approcher cette dimension religieuse, son appropriation personnelle. Elle définit sa conception de la liberté, qui est une liberté, à mon avis, éminemment classique, qui est une liberté qu'il va mettre en œuvre. C'est véritablement la résistance, au sens étymologique du terme. C'est ce qui résiste véritablement aux circonstances qui pourraient balayer la France ou l'individu. Et le général de Gaulle, on parle beaucoup de sa conception de la France, et on va en parler à travers la foi, mais il a aussi une conception de l'humain. Et chez de Gaulle, l'humain est central dans la réflexion, que ce soit en termes politiques, mais aussi en termes sociaux.
Oui, d'ailleurs, il y a effectivement dans ce dictionnaire un chapitre qui précède d'ailleurs le vôtre, hein, Gaël Nofri, c'est la seule querelle qui vaille, c'est celle de l'homme. Hein, c'est bien cela. Et les deux chapitres l'un à côté de l'autre, effectivement, se complètent tout à fait. Jean-Paul Bled, cette conception, je dirais, chrétienne, enfin cette conception, ce regard sur le général, ce regard effectivement chrétien, comment vous l'abordez, vous ?
Le gaullisme est un humanisme et cet humanisme puise ses sources au christianisme. On a évoqué à l'instant la dimension sociale de la pensée du général de Gaulle. Eh bien oui, elle puise ses sources dans le substrat du catholicisme social. On peut associer des noms qui sont apparemment un peu éloignés les uns des autres. D'un côté, ce sont Albert Demain, la Tour du Pin. De l'autre, Marc Sangnier.
C'est ça, le fondateur du Sillon.
Exactement.
Hein, le fondateur du Sillon, donc, il l'a beaucoup influencé, Marc Sangnier, le général de Gaulle.
Oui, dans la mesure où d'une part il y a cette dimension catholique sociale, et puis l'adhésion de De Gaulle à la démocratie, qui n'était pas évidente parce qu'il y a une partie de la droite française qui avait, moins qu'on puisse dire, des réticences vis-à-vis de la démocratie. Et ce rapport avec Marc Sangnier, le Sillon, eh bien, l'a conforté dans son adhésion à la démocratie. Et le combat qu'il va mener dans le cadre de la résistance, ce sera à la fois un combat pour le redressement de la France et le rétablissement de la démocratie, les deux allant de pair.
Gaël Nofri, on va revenir à l'enfance, à la culture familiale du général de Gaulle. Bon, tout le portait effectivement dans un christianisme classique, c'est-à-dire qu'on allait à la messe, il est passé par les jésuites, et c'est une éducation proprement chrétienne.
Oui, il a une éducation chrétienne incontestablement par le milieu familial qui est le sien, avec effectivement cette dimension de catholicisme social qui est très forte, notamment dans sa famille maternelle. C'est une famille de la grande bourgeoisie du Nord et qui est très impliquée dans ses réflexions de catholicisme social et du sort, d'amélioration du sort des ouvriers. Du côté paternel, effectivement, il y a tout ce qui est de l'ordre du rapport aux jésuites, puisque son père va y enseigner. Et puis, il y a cette rigueur d'une éducation classique, d'une famille française. Mais, encore une fois, là aussi, De Gaulle choisit sa propre voie. Il n'est pas uniquement déterminé par le milieu familial. Le milieu familial va le baigner, va le structurer. De Gaulle va participer pleinement aux offices, va être un catholique pratiquant, mais il s'approprie véritablement sa foi. Comme le disait à l'instant le professeur Bled, il n'était pas donné, vu son entourage familial, qu'il soit forcément républicain. Sa mère n'est pas objectivement républicaine. On ne peut pas dire que sa mère soit républicaine.
Elle est royaliste, vous voulez dire ?
Oui, sa mère est royaliste, incontestablement. Ce qui n'est pas tout à fait vrai de la part de son père, qui, lui, serait plus un monarchiste de regret, républicain de raison, si on devait... voilà. Mais chez De Gaulle, il va faire véritablement son propre chemin. Et d'ailleurs, dès la Troisième République, le soldat De Gaulle constate les manquements de la Troisième République, mais pour autant ne remet pas en question la démocratie. On voit que De Gaulle cherche, avec les différents hommes que la Troisième République porte, les solutions aux problèmes et ne se retourne pas vers ce qui aurait pu être le chemin de son éducation. Donc voilà, il a une façon à lui de s'approprier, encore une fois, cet héritage chrétien, cet héritage catholique. Ses événements personnels vont aussi le marquer.
Alors, il y a les écrivains qui vont le marquer. Hein, je pense, par exemple, à Peggy. On ne peut pas faire l'impasse sur Peggy, Jean-Paul Bled. C'est très important chez lui, Charles Peggy.
Il y a plusieurs écrivains avec lesquels il a entretenu un rapport très étroit, intime. Mais il a dit précisément que de tous ces écrivains, c'était Charles Peggy qu'il avait le plus influencé. Charles Peggy qui a cette...
Donc poète et mystique, on va dire, écrivain, poète, mystique.
Mystique, la mystique de la France.
De la France, voilà.
Et aussi, ce qui caractérise Peggy, c'est que c'est un homme qui vient, on peut dire, de la gauche, du spectre politique, n'est-ce pas, et qui, par la voie du patriotisme, va progressivement venir au catholicisme. Et ce cheminement est aussi un cheminement qui intéresse De Gaulle. Alors, il y a d'autres écrivains, bien entendu, et des écrivains catholiques. On peut penser à Bernanos, évidemment, qui a soutenu son action à l'époque de la France libre et de la France combattante. Il y a les rapports avec d'autres grands écrivains catholiques, c'est Mauriac, c'est Claudel. Et puis, avant, il y en a un qu'il faut tout de même citer, c'est Chateaubriand. Chateaubriand qui est aussi une de ses grandes sources d'inspiration.
Qu'est-ce que veut apporter Chateaubriand ?
Chateaubriand le conforte dans sa vision de la France.
Dans le destin qu'il va mener.
Exactement. Et d'une France qui, en quelque sorte, transcende les régimes, car Chateaubriand est royaliste, mais il a une dimension qui lui permet d'aller au-delà des attaches politiques. Et cela, c'est un élément que l'on va retrouver, bien sûr, chez le général de Gaulle.
C'est pourquoi, d'ailleurs, dans le dictionnaire, il y a une partie sur la pensée du XIXe siècle.
Tout à fait,
qui va influencer le général.
Et on voit dans ce chapitre apparaître à plusieurs reprises Chateaubriand.
Jeune Seigneur et ton œuvre splendide, un cœur de feu et d'un âme de guerrier, qu'il est ton âme à la Vierge timide, que tu voulais couronner.
Gaël Nofri, vous ne parlez pas de Jeanne d'Arc dans la partie que vous consacrez au général de Gaulle. Non, c'est pas important.
Jeanne d'Arc intègre dans la mystique gaulliste. Ouais. Jeanne d'Arc intègre évidemment la mystique gaulliste. Jeanne d'Arc intègre d'autant plus que on parlait de Peggy tout à l'heure. Et effectivement, Jeanne d'Arc, on le sait, joue un rôle fondamental dans la conception du destin national qu'a Peggy, étant orléanais en plus pour Peggy, évidemment, la chose n'était que plus évidente. Mais chez De Gaulle, effectivement, c'est Peggy qui va jouer le rôle le plus important, incontestablement, dans sa conception de l'histoire, dans sa conception du rôle de la France, c'est Notre-Dame de France.
Eh oui.
Notre-Dame de France. Pour De Gaulle comme pour Peggy, il y a un mélange entre ce qu'est la France et l'incarnation dans l'histoire d'une figure providentielle. C'est véritablement... Et Jeanne d'Arc, De Gaulle le dit, Jeanne d'Arc est à ce moment-là, je crois que j'ai cité d'ailleurs ce passage, Jeanne d'Arc est comme le baptême de Clovis.
Oui, ça vous parlait du baptême de Clovis, en effet.
Et ça termine sur le Jeanne d'Arc. C'est à ce moment-là que pour De Gaulle, le destin de la France coïncide avec le dessein de la Providence. C'est le fameux Gesta Dei per Francos. La volonté de Dieu par le geste des Francs. Mais De Gaulle se reconnaît pleinement dans cette conception du destin national.
Oui, vous citez effectivement, Gaël Nofri, vous citez De Gaulle, qui dit « Mon pays est un pays chrétien. L'histoire de France commence avec Clovis. Clovis, le premier roi à être baptisé chrétien. »
Oui.
C'est De Gaulle qui l'a bien dit, hein. C'est
Gaulle,
bien ça, hein.
De Gaulle le dit incontestablement, ouais. et le pense. C'est-à-dire que, et on le voit dans les différents, on en parlera par la suite, mais on le voit dans les différents actes qu'il va poser en tant que chef d'État. Pour lui, si l'État est laïque, et incontestablement laïque, il n'y a pas de débat là-dessus, il l'écrira d'ailleurs, hein. L'État ne peut pas être autre chose que laïque. Il est important de ne pas perdre la dimension chrétienne qui innerve véritablement l'âme française. Et il va le prouver, notamment lors de son déplacement au Québec.
De Gaulle a très peu, le général a très peu communié en public, Jean-Paul Bled. Il l'a fait essentiellement à l'étranger, notamment en Pologne, vous nous rappellerez la date. Pourquoi ? Est-ce que c'était là un acte calculé d'une certaine façon, non ?
Bien sûr, bien sûr.
Hein ? C'était à quelle année ?
Alors c'est en 1966, lors du voyage donc, qui le conduit en Pologne. Et bien entendu, communier en Pologne, ça a un sens religieux, mais un sens politique. Parce que, rappelons-nous que la Pologne à laquelle il rend visite, c'est une Pologne communiste.
Eh oui.
Et dans laquelle la force de résistance, la seule force de résistance, mais ô combien puissante, c'est l'Église, l'Église catholique. Et donc, lorsqu'il communie, évidemment, c'est fortement ressenti, et dans un sens positif, ça va de soi, par l'immense majorité des Polonais, qui lui en sont très, très reconnaissants. Alors, l'autre grand moment que l'on peut citer, c'est celui de sa communion au Québec, lors de ce fameux voyage, un an plus tard, en 1967, en juillet 1967. Et là, encore, on retrouve un élément très fort. Les 6 millions de Québécois sont les descendants des 60 000 Français restés dans la belle province au moment où nous en sommes partis. Et comment expliquer cette descendance? Eh bien, en grande partie par la foi catholique. La foi catholique qui a permis à ce peuple de se maintenir et de résister.
Toujours de résister. Le mot résistance, hein, que vous évoquiez tout à l'heure, Gaël Neufré.
Capital.
Oui.
Donc, lorsque il communie à Sainte-Anne-de-Beaupré, eh bien, c'est pour lui une manière de reconnaître la dimension catholique du Québec et le rôle qu'a joué la fidélité des Québécois au catholicisme dans leur résistance et dans leur affirmation nationale.
Les grandes messes aussi auxquelles a cité le général sont des messes effectivement qui rentrent dans cette j'allais dire dans cette mystique de la France. Là, je pense bien sûr à la messe, hein, le grand Te Deum, le 26 août 1944, pour célébrer la libération de Paris, et ça se passe à Notre-Dame. Gaël Neufré.
Oui, effectivement. Pour De Gaulle, il l'écrit à plusieurs reprises, les victoires et les grandes heures de l'histoire de France se passent à Notre-Dame, se fête avec un Te Deum, et il n'y voit pas là une atteinte à la laïcité de l'État. Il pense que les choses sont tout à fait compatibles parce qu'il y a deux choses différentes dans son esprit. Il y a l'État et il y a la France. L'État a vocation à être laïque. Il le dit, il l'écrit, et encore une fois, il ne communie pas pour l'essentiel, en tout cas sur le territoire national, parce que lorsqu'il est dans sa représentation de chef d'État, l'État n'a pas communié à son sens. En revanche, pour la France, il estime que... et il sera un grand défenseur de l'œcuménisme, donc il ne faut pas... voilà. Mais il estime pour autant qu'il y a dans l'âme française une composante civilisationnelle, chrétienne, très importante.
Rappelons aussi ce Te Deum de 26 août 44, le général de Gaulle impassible, alors que des mitraillettes font du bruit, n'est-ce pas, dans la cathédrale. On ne saura dire vraiment jamais ce qui s'est passé véritablement. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, lors de ce Te Deum, Jean-Paul Bled?
Il y a évidemment encore dans le Paris d'août 44, il reste des collaborateurs qui sont encore en liberté et ils se manifestent ce jour-là en intervenant à coups de mitraillette à l'intérieur de la cathédrale. Bon, c'est cela la signification. Bien évidemment, c'est une sorte de baroud d'honneur, ou baroud plutôt que d'honneur, baroud tout court, de la part de ces individus. Voilà, je crois, le sens que l'on peut donner.
Le général de Gaulle, très calme, malgré les coups de feu, malgré les coups de pétard, avance vers le chœur. Il atteint actuellement le chœur et le sacristain lui présente son fauteuil, c'est d'ailleurs le fauteuil présidentiel. Et je le dis ici, le président de la République. Il se tient droit sous la mitraille, il est vraiment magnifique.
Vous écoutez Religion du Monde, nos invités sont Jean-Paul Bled et Gaël Neufré pour De Gaulle, l'homme du siècle, un grand dictionnaire de Gaulle, publié aux éditions du Cerf. Alors Gaël Neufré, vous citez plusieurs phrases du général concernant Dieu. J'ai noté celle-ci, c'est De Gaulle qui s'adresse à Maurice Clavel, à l'écrivain Maurice Clavel. Moi aussi, comme vous, je n'adore que Dieu, mais comme vous, j'aime surtout la France. Ça résume bien De Gaulle.
Oui, ça résume l'essentiel de la pensée du général De Gaulle. C'est-à-dire que De Gaulle, je crois André Malraux qui dit, De Gaulle aime à la fois autant que la France, mais chez lui...
Dieu autant que la France. Oui, il dit sa foi n'est pas une question, c'est une donnée comme la France.
Sauf qu'il aime parler de la France et il n'aime pas parler de sa foi. Et vous avez raison de remarquer qu'il parle souvent de Dieu et il fait référence souvent à des termes de l'ordre du divin, du mystique, mais jamais, ou très peu en tout cas, il ne fait référence à sa foi personnelle. L'essentiel de ce que l'on sait de sa foi personnelle, c'est plutôt de la correspondance privée ou c'est plutôt les entretiens qu'il a pu avoir avec André Malraux qu'il a ensuite retranscrit dans les chaînes qu'on abat avec là aussi la capacité d'adaptation d'André Malraux avec le réel.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'il prend une certaine liberté, c'est ça ?
Non, je pense que Malraux dit plus de la vérité de ce que pense et ce que ressent le général de Gaulle, en tout cas dans ce livre, que beaucoup de ses contemporains, qu'après, il a une façon de, évidemment, de tourner les choses et de, peut-être d'orchestrer, ce que lui reprochera d'ailleurs Georges Pompidou, qui peut déformer parfois ou gommer parfois des aspects du réel, mais c'est en général pour faire plus ressortir la vérité du fond des choses, ce qui est particulièrement intéressant lorsqu'on parle de foi et de Dieu.
Sur une partie tout à fait personnelle de la foi de Gaulle, là je pense à, là vous ne l'évoquez pas, mais bon, c'est Anne, sa fille trisomique, qui va perdre à l'âge de 20 ans, je crois, et il me semble qu'il dit cette phrase à sa femme le jour des obsèques, ne pleurez pas, elle est maintenant comme les autres. Jean-Paul Bled.
Oui, je confirme. Et évidemment, cet enfant handicapé a été à la fois pour le couple une grande souffrance et un immense bonheur, les deux à la fois. Et cette phrase, qui est très forte, bien sûr, le résume.
Toujours sur sa foi hein, de chrétien, son humanisme aussi, hein, porté par cette foi, on peut se poser la question, elle est évidemment très politique, c'est Bastien Thiry. Donc fusillé le 11 mars 1963 au fort d'Ivry, donc puisqu'il a été condamné par la Cour militaire de justice après l'attentat du Petit Camar en août 62 qu'il avait organisé. De Gaulle ne le gracie pas. Normalement, un chrétien doit défendre la vie. Je vous pose la question à vous, Jean-Paul Bled, et puis oui. Ensuite à vous, Gaël Nofri.
C'est une question difficile, mais en même temps, je pense que le choix du général de Gaulle en cette circonstance a été dicté par ce qu'il considérait être la raison d'État. Et la raison d'État, à ses yeux, voulait que celui qui avait organisé cet attentat reçût le châtiment suprême.
Gaël Nofri.
Il est évident que chez de Gaulle, la marche vers la vie, le combat pour la vie est essentiel. Il le dit d'ailleurs à la conférence, à l'occasion de la réunion des ecclésiastiques français à Rome. Il résume quelque part le destin de la France par cette marche et cette volonté de trouver un chemin vers la vie. Pour autant, je crois que de Gaulle est effectivement un chrétien gallican et qu'il ancre profondément sa conception des rapports entre État et religion dans cette conception-là et dans la conception, je le disais tout à l'heure, d'un État laïque. Et si De Gaulle l'homme aurait sans doute gracié Bastien Thiry, De Gaulle le président de la République, c'est qu'il ne, sa mission lui commande de ne pas s'abandonner à ce genre de considération.
Donc la raison d'État.
Oui, pour lui la raison d'État doit s'imposer dès lors, en plus... que ce n'est pas seulement le sort de Bastien Thiry, il faut se replacer dans le contexte.
Oui, c'est la guerre d'Algérie.
Qui est en jeu, c'est un contexte de guerre. Nous ne sommes pas dans un contexte individuel et personnel. Nous sommes dans un contexte où l'État doit faire face à une guerre larvée sur son territoire.
Alors, sur ce catholique gallican, qu'est le général de Gaulle, est-ce que c'est effectivement ce catholicisme gallican peut expliquer son action? Alors moi je pense par exemple eh bien aux indépendances qu'il a données, je pense aussi à la réconciliation franco-allemande. Alors là je me tourne vers vous, oui. Jean-Paul Bled, grand spécialiste de cette question.
Alors je voudrais justement à propos de ce sujet relever un point qui s'accorde avec notre propos. Cette réconciliation s'est faite à travers la relation privilégiée que Charles de Gaulle a nouée avec Konrad Adenauer.
Qu'il va recevoir à la Boisserie en visite privée. Hein.
Exactement. En septembre 58, c'est-à-dire très peu de temps après son retour au pouvoir. Dans les éléments qui l'ont poussé à entretenir cette relation privilégiée, il y a aussi le fait que Konrad Adenauer est un catholique fervent et, deuxièmement, un catholique qui n'a jamais pactisé avec le Troisième Reich, qui était, avant la guerre, maire de Cologne du parti de Centrum, qui était le parti catholique, et qui, jusqu'en 1933, a eu évidemment maille à partir avec les nazis, et qui leur a toujours résisté. Et cela, pour le général de Gaulle, c'est un point essentiel. Je crois qu'il aurait été, on aurait pu imaginer que à la tête de l'Allemagne fédérale, on eut un homme dont le passé était un peu flou, on va dire. Probablement, la relation n'aurait pas été la même. Là, il a affaire à un homme qui a été droit, et en plus, un catholique, qui a mis donc en œuvre les préceptes du catholicisme.
Donc ce sont deux catholiques qui se rencontrent à la boisserie.
Tout à fait. Et cette dimension, à mon sens, ne peut pas être négligée.
Gaël Nofri.
Enfin, évidemment, je souscris tout à fait à ce qu'a dit le professeur Blaise. Et dans la pensée, à mon avis, telle que la pense le général de Gaulle, Konrad Adenauer a été résistant parce que catholique. Et catholique, enfin, je dirais que les deux sont intimement imbriqués parce que pour lui, le nazisme naît d'abord d'un malaise de l'âme. C'est une crise de l'âme, c'est une crise de la société. Et incontestablement, d'ailleurs, il l'écrit bien avant-guerre, oui, en faisant référence notamment à Nietzsche et aux théories du surhomme, pour lui, ce qui est advenu avec le nazisme et plus généralement tous les totalitarismes est d'abord une crise, alors peut-être pas de la foi, mais en tout cas de civilisation et une crise d'âme dans les civilisations européennes de son époque. Donc évidemment, le fait que ce soit un résistant et qui ait sans doute assis sa résistance et sa conception de l'homme sur sa foi chrétienne ne peut que renforcer le général de Gaulle, qui véritablement a senti monter, parce que on parle du 18 juin comme si de Gaulle avait été projeté comme opposant au nazisme. Certes, il y a l'appel du 18 juin, mais de Gaulle, des années avant, sent monter le péril, non seulement militaire, ça c'est son côté stratège et soldat, mais sent monter le péril humain.
Idéologique. Poursuit sur catholicisme gallican de Gaulle et la politique extérieure. Les indépendances africaines,
oui.
On peut relier ces indépendances à cette vision de l'homme africain.
Oui, dans la mesure où
Jean-Paul Blaise, oui.
Il considère, sans renier l'œuvre de la France en Afrique, mais en même temps, il a parfaitement compris que la marche de l'histoire conduit ces peuples, ces pays en gestation, à l'indépendance. Ce qui vaut aussi, même s'il y a d'autres facteurs qui interviennent, mais ce qui conduit aussi à l'indépendance de l'Algérie. Alors certes, dans un contexte beaucoup plus dur, beaucoup plus douloureux que dans le cas de l'Afrique noire, où, on peut le dire, ces indépendances sont faites d'une manière paisible.
Divorce à l'amiable.
Oui, à l'amiable. Il n'y a pas eu de crise majeure, à part le cas de la Guinée. Mais en dehors de ce cas, tout s'est fait, effectivement, à l'amiable. Ça s'est fait en deux temps. D'abord la communauté, et puis ensuite l'indépendance. Indépendance qui va aller de pair avec la politique de coopération. La France...
Il y a un relais après, oui.
Il y a un relais, bien entendu.
Gaël Nofri. Les indépendances.
De Gaulle, sur la question de l'indépendance, non seulement De Gaulle n'a jamais renié l'apport de la France dans son épopée coloniale, mais en plus il la voit comme la première marche vers l'indépendance. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui est intéressant dans le regard de De Gaulle et qui serait intéressant au regard de l'actualité d'ailleurs, c'est que pour De Gaulle, la France est intervenue parce qu'elle était un pays de progrès, un pays de développement, elle est intervenue pour permettre la prise en main progressive, future, d'abord à travers la communauté, puis vers l'indépendance totale, au peuple de leur destin. Et il le dira à plusieurs reprises. Et une phrase de Charles Péguy qui, à mon avis, résume bien la liberté chez De Gaulle, qui est une liberté essentiellement chrétienne, c'est « l'ordre et l'ordre seul fondent en définitive la liberté, le désordre fonde la servitude ». Mais il ne faut pas lire cette phrase comme une phrase d'ordre, je dirais presque matériel, une phrase autoritaire. L'ordre, c'est aussi l'organisation normale des choses qui doit permettre à l'homme ou au peuple, puisque là on parle de peuple, de se hisser à leur niveau et d'avoir les outils de la détermination par eux-mêmes et donc d'être conforme au destin qui est le leur. Et on retrouve là la notion de destin qu'il affectionne en bon connaisseur de l'histoire et en chrétien.
L'ordre libère, le chaos... Voilà,
a servi.
Je ne connaissais pas cette phrase de Péguy. Allons vers le catholicisme social de Gaulle. Alors, tout à l'heure, nous évoquions effectivement ce catholicisme social venu de sa mère, hein, du nord de la France. Quelles conséquences dans sa politique sociale ? Est-ce que, par exemple, la participation dans l'entreprise qu'il va permettre ? Alors, expliquez-nous, Jean-Paul Bled, cet apport.
Hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, le catholicisme social est une des sources de la pensée de Charles de Gaulle. Et ça n'est pas resté, si vous voulez, quelque chose de théorique. Cette source d'inspiration, elle commande une politique. Et cette politique, elle ne date pas de 68 ou des lendemains de 68, mais dès la période de la guerre... Et bien entendu, la libération. Parce que, au lendemain de la libération, il y a un grand programme de politique sociale, la sécurité sociale notamment, qui a été mis en œuvre. Et c'est le gouvernement du général de Gaulle qui l'a mise en œuvre. Donc, il y a une implication très forte du général de Gaulle dans ce domaine. Et ensuite, il va reprendre ce thème lorsqu'il sera à la tête du RPF, le thème de l'association, qui est le premier terme avant que n'apparaisse le terme de la participation, mais c'est la même idée. Donc, association, participation, des salariés, au bénéfice, bien sûr, mais aussi, ce qui a posé quelques problèmes avec certains de ses collaborateurs, parmi les plus importants, participation à la gestion de l'entreprise. Une sorte de co-gestion, eh bien, tout cela puise, encore une fois, ses racines dans le catholicisme social. Même si ce n'est pas affirmé officiellement, urbi et orbi, par le général, évidemment.
Gaël Neufray.
Tout à l'heure, je parlais de l'incompréhension du général de Gaulle en 68 face à la question du niveau de vie, qu'il ne faut pas considérer comme un mépris du général de Gaulle vis-à-vis des questions social. On lui a fait dire « l'intendance suivra ». Ce n'est pas vrai. De Gaulle a effectivement toute cette dimension sociale. Et lorsqu'il pense la participation, d'ailleurs le mot participation avant association, mais participation, ça va au-delà de l'association au bénéfice. Le mot participation, ça veut dire faire participer les forces du travail, les forces de direction et les forces du capital. C'était un peu l'idée. Et c'est véritablement au-delà de l'aspect matériel. Et le général de Gaulle fera beaucoup pour l'aspect matériel et pour l'augmentation du niveau de vie des Français. Je rappelle, en 1965, pendant son intervention entre deux tours d'élection présidentielle, il dira que le Français, il veut la machine à laver, il veut l'auto, il veut en plus de l'ordre, et que c'est l'équilibre de la politique gaullienne que d'accéder à tout ça.
Ce sont des années heureuses économiquement.
Sont des années heureuses économiquement. Mais au-delà de ça, chez De Gaulle, il y a la volonté, à travers la participation, de rehausser la dignité de l'individu. Et je pense que le mot « dignité » est important dans sa conception du social. C'est-à-dire donner à l'individu la pleine mesure de ce qu'il est, la pleine reconnaissance, la pleine capacité aussi de participer à la vie de l'entreprise et à l'entreprise au sens non pas administratif, mais à l'entreprise qui le fait vivre et qui l'anime au quotidien. Et je crois que cette dimension sociale est très importante.
Est-ce que vous estimez que les encycliques sociales des papes ont pu influencer Jean-Paul Bled, général de Gaulle?
Oui, je pense.
Celle de Léon XIII?
Bien sûr. À partir du moment où on admet que le catholicisme social a été une des sources d'inspiration du général de Gaulle, ça implique obligatoirement les encycliques sociales. Donc, oui, bien sûr, là encore, même si ce n'est pas affirmé, on ne trouvera aucun discours dans lequel il se réfère à Léon XIII. Mais dans la réalité des choses, oui, Léon XIII a été une source d'inspiration pour lui.
Il est 10h15 exactement lorsque la voiture du général de Gaulle arrive sur la place Saint-Pierre. Et voici à présent l'entrée dans la cour Saint-Damas, la cour la plus solennelle de l'État du Vatican, réservée aux chefs d'État en visite. Et voici le Saint-Père qui s'avance au seuil de la salle du trône pour accueillir le chef de l'État français.
Nous avons en France un très particulier respect pour sa sainteté. Nous la connaissons d'abord comme le vicaire du Christ, et puis aussi comme un prélat qui, naguère, nous a beaucoup connus et qui nous a aimés. Nous déposons, au nom de la France, nos respects à ses pieds.
On vient d'entendre donc un son d'archives de la visite du général de Gaulle au Vatican. C'était en 1959, en juin 1959. Il reviendra au Vatican d'ailleurs en 1967. Alors une question, Jean-Paul Bled, Gaël Nofri. Est-ce que les papes, ça a compté pour le général de Gaulle?
Il s'est impliqué, enfin la France s'est impliquée pour l'élection d'un pape qui avait été nonce apostolique en France.
Donc et Jean XXIII, oui. Il s'est impliqué.
Ah oui, de Gaulle s'est impliqué. La France s'est impliquée. Que le général de Gaulle, on n'est pas de verbatim du général de Gaulle, mais on sait que la France a pris la position pour l'élection d'un pape dont les amitiés francophiles étaient certaines. Pour autant, le général de Gaulle a toujours respecté la fonction du Saint-Siège et son indépendance, comme il a tenu à ce que le Saint-Siège respecte l'indépendance de la France. Mais ça n'a pas empêché, encore une fois, de demander à ce que l'Église de France travaille en communion avec la nation et qu'elle accompagne son destin. Il l'écrit d'ailleurs, et pour lui, je crois que c'est quelque chose d'important. Encore une fois, chaque fois que les choses pouvaient aller dans le même sens, ça correspondait tout à fait à sa vision de l'histoire de France. Mais lorsque des divergences pouvaient subvenir, et effectivement la reconnaissance et le rôle aussi du haut clergé et français pendant l'occupation et aux côtés du régime de Vichy, incontestablement, a fait l'objet de la part du général de Gaulle, d'une certaine incompréhension qu'il a d'ailleurs formulée, même si il n'a pas été cherché à débusquer les preuves de compromission. Mais pour autant, enfin, il y a un livre très intéressant qui est sorti sur tout le travail qui a été fait à la libération par la commission chargée, en accord avec l'Église catholique en France, de trouver des solutions pour celles et ceux qui s'étaient compromis.
Oui, c'était pas tout le haut clergé, heureusement.
Non, bien loin s'en faut. Il le reconnaîtra, mais il est vrai que de la part du haut clergé, il y a eu une part non négligeable qui, effectivement, a regardé l'arrivée du maréchal Pétain comme une bonne chose.
Avec un certain soulagement.
Une divine surprise.
Jean-Paul Bled, le général de Gaulle et les papes.
Bien, écoutez, je ne peux que reprendre ce que vient de dire Gaël Nofri. Il y a aussi, chez le général de Gaulle, vis-à-vis du Saint-Siège, le respect de l'institution. De la même manière que, dans un ordre différent, il a le respect de l'institution monarchique en France.
Ça, c'est un reste de monarchisme, si je puis dire.
Oui, enfin, vis-à-vis du Saint-Siège, c'est peut-être différent. C'est l'institution qui est consacrée par les siècles et qui s'inscrit évidemment dans les origines du catholicisme. Donc, sa position n'a pas lieu, disons, de surprendre. Il y a un geste que je voulais signaler, c'est que lorsqu'il revient au pouvoir en 58, dans les temps immédiats après son retour au pouvoir, je ne sais plus si c'est juin ou juillet, mais en tout cas pas plus tard que juillet, il a un échange avec Pie XII et où il lui demande sa bénédiction. Sa bénédiction devant la tâche immense qui l'attend. Et donc, c'est un geste qui a évidemment, qui est riche de sens.
Ici, Lan. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur.
Vous avez évoqué, Gaël Nofri, l'œcuménisme du général de Gaulle. À quel moment vous l'avez...
Le général de Gaulle s'est rarement prononcé sur l'œcuménisme, mais à chaque fois qu'il l'a fait, il l'a fait avec intérêt. Il parle de tâches essentielles lorsqu'il écrit notamment aux protestants de France. Et chez de Gaulle, il ne condamnera pas, par exemple, le protestantisme, alors que son milieu aurait dû l'y pousser. Il est dans un milieu qui est relativement très anti-protestant, qui s'est élevé quand on a élu pour la première fois un président de la République protestant sous la Troisième République. Donc, il aurait pu être baigné par ce milieu. Au contraire, il ne va pas parler d'hérésie protestante, il va plutôt parler de schisme. Le fait qu'il ne fasse pas référence à sa foi personnelle et qu'il la garde dans le domaine de l'intime, mais que sa référence constamment à Dieu et aux références du christianisme est une volonté non pas... encore une fois, de gommer les différences. Il est un catholique, il le vit, il le dit, je suis membre de l'Église romaine, et il l'assume, mais pour autant, il a cette volonté, une forme d'irénisme chez lui, qui pense que le rôle aussi, c'est d'avoir cette vision globale en tant que chrétien et en tant que dépositaire d'un pays de civilisation et de culture chrétienne.
Et son rôle rassembleur aussi.
De rassembleur, hein, de rassembleur. Au-dessus des partis, ouais. Mais aussi au-dessus des confessions.
Un dernier mot sur la politique étrangère de Gaulle. Là, je pense à l'islam et aux pays arabes. Évidemment, c'est une question qui ne se posait pas. De Gaulle et l'islam, on ne le trouve pas parce que la question ne se posait pas comme aujourd'hui. Il y a juste De Gaulle et la politique arabe. Jean-Paul Bled.
Oui, alors, effectivement, c'est un volet important de la politique extérieure du général De Gaulle. Une politique qui tient à ses liens anciens avec le Liban. Et ensuite, après l'indépendance de l'Algérie, il engage, amorce, une politique tournée vers les pays arabes, une politique renforcée lors de la guerre des Six Jours de 1967, où il prend parti contre Israël. Et évidemment, à partir du moment où il a cette position, il devient une sorte de héros dans le monde arabe. Et c'est le point de départ d'une grande politique arabe qui a été continuée, en gros, on va dire, par ses successeurs jusqu'à une époque relativement récente. Par ailleurs, à aucun moment n'est posée la question de l'islam. Sans doute, sûrement, parce que le problème ne se pose pas en ces termes à cette époque. Le seul point qu'on pourrait évoquer, c'est vis-à-vis de l'Algérie. Parmi les facteurs qui l'ont décidé à opter pour l'indépendance, il y en a beaucoup, n'est-ce pas ? Et celui que je vais signaler n'en est qu'un et peut-être pas le plus important. Mais on ne peut pas exclure qu'il ait aussi envisagé ce que serait la France, 30, 40 ans, 50 ans après cette indépendance, si on avait fait le choix inverse. Et si on avait fait le choix inverse, ça voulait dire, automatiquement, qu'on pourrait, à terme, avoir 20, 30 millions de Maghrébins sur le territoire métropolitain. Et c'était une perspective qu'il n'acceptait pas.
Gaël Nofri, oui, un petit mot, alors, et après on va conclure.
Sur cette question, effectivement, de l'Algérie et de l'islam, parce que c'est là où De Gaulle touche du doigt véritablement, en tout cas sur les conséquences que l'islam pourrait avoir sur la France, il y a le texte de Alain Peyrefitte dans le tome 1 de C'était De Gaulle, qui est assez connu, puisqu'il termine avec cette formule phrase « Mon petit village ne s'appellerait plus Colombey-les-Deux-Églises, mais Colombey-les-Deux-Mosquées ». Mais ça repose la question...
C'est une phrase en qu'il prête au général.
Que Alain Peyrefitte aurait entendu du général De Gaulle.
Oui.
Voilà, on est obligé de se fier à ce qui en est ressorti. Mais ce qui est certain, en tout cas, puisque bon, Alain Peyrefitte est quand même un confident du général De Gaulle, et si la phrase n'a pas été posée comme ça, l'esprit y était. Et ce qui est certain dans cette, c'est que le général De Gaulle posait la question, effectivement, de la compatibilité, non pas des individus entre eux, puisque ce n'est pas en ces termes-là qu'il la pose, mais la compatibilité d'une communauté dont la culture serait imprégnée par une autre religion, en l'occurrence l'islam, avec l'ensemble de la communauté nationale, de l'adaptabilité et de la rencontre de ces deux communautés.
Alors, on en vient à la conclusion. S'il fallait définir De Gaulle et Dieu, De Gaulle et la foi, quelle serait votre définition? Je pose la question à tous les deux, Jean-Paul Bled pour conclure, puis Gaël Nofri.
Eh bien, le général De Gaulle est un catholique pratiquant dans la sphère privée. Ensuite, dans la sphère publique, il est un catholique gallican, ce qui veut dire que il accorde le primat à l'État et à la France.
Gaël Nofri.
Je ne sais plus. Je pense que la foi du général De Gaulle nous renseigne sur ce qu'est la liberté. C'est-à-dire que c'est un combat à la fois face aux circonstances, mais c'est aussi un combat intérieur pour être soi-même, quand on parle d'un individu ou d'une communauté dans l'histoire.
Je vous remercie tous les deux donc pour cet éclairage sur la foi du général De Gaulle. Je rappelle que vous signez donc De Gaulle, l'homme du siècle, et c'est publié aux éditions du Cerf. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.
10 ans que papa est parti, 10 ans qu'il a quitté la place, et chacun dans tous les partis prétend qu'il était de sa race. Même ses anciens détracteurs s'abritent à l'ombre de son chêne, et la droite et la gauche en chœur arborent la croix de Lorraine. Il s'appelait de France, un chanteur l'avait dit, avec 15 ans d'avance, ce sera la cisanie. Quand papa sera parti,
la marche de